Bonjour et bienvenue sur Les Bruits Neufs. Parce qu'assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeur des villes, le soir et au soleil et toujours. Assez connu, les arrêts de la vie. Oh, rumeurs et visions, départ dans l'affection et le bruit neuf. Aujourd'hui, la joute des blasonneurs. Gloire et misère du corps chez les poètes baroques. Pour cette émission, nous serons spécialement accompagnés de l'excellent Roland Kern à la viole de gambe. Mais n'attendons plus. Chevauchons les âges de cette douce France pour gagner les rives de la Renaissance tardive aux munificences baroques. Je vous plante le décor. Nous sommes en l'an de grâce 1534, sous le règne de François Ier. Les châteaux en tuffeau poussent comme des champignons sur les bords de la Loire, la langue française balbutie ses premières lettres de noblesse, cela fait 40 ans qu'un nouveau monde existe, et la réforme, qui comme d'habitude ne plaît pas à tout le monde, fait des émules dans les cœurs protestants. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais voilà que dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des affiches anticatholiques sont placardées partout dans les villes de France, jusque devant la chambre royale de François Ier, au château d'Amboise. Ce crime de lèse-majesté met aussitôt fin à sa politique de conciliation vis-à-vis des réformés. 6 responsables seront brûlés. Et devant ce climat de répression, Clément Marot, alors poète officiel du roi et favorable aux idées protestantes, part trouver refuge chez la duchesse Renée de France, à Ferrare, en Italie, à 2 pas de Venise. Nous sommes donc en 1534. Clément Marot a 38 ans, ancien poète officiel de François Ier, il est déjà reconnu de ses pairs et il publie son blason du beau Tétain. Tétain refait plus blanc qu'un œuf. Tétain de satin blanc tout neuf. Tétain qui fait honte à la rose. Tétain plus beau que nulle chose. Tétain d'or. Non pas tétain, voire, mais petite boule d'ivoire, au milieu de qui est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi. Mais je gage qu'il est ainsi. Tétain donc au petit bout rouge. Tétain qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour baler. Tétain gauche, tétain mignon, tétain loin de son compagnon. Tétain qui porte témoignage du demeurant du personnage. Quand on te voit, il vient à main, une envie de dans les mains de te tâter, de te tenir. Mais il se faut bien contenir, d'en approcher, bon gré ma vie, car il en viendrait autre envie. Ô tétain, né grand, né petit. Tétain meurt, tétain d'appétit, tétain qui nuit et jour criait « Mariez-moi tôt, mariez !» Tétain qui renfle et repousse ton gorgias de deux bons pouces, à bon droit heureux on dira celui qui de lait emplira, faisant du tétain de pucelle, tétain de femme, entière et belle. Ce poème galant, inspiré de la tradition du « dit médiéval », fait un véritable buzz parmi les cours et les cercles des poètes. Il devient tant et si bien viral que ses compagnons de plumes français lui envoient à leur tour leur production, calquée sur cette esthétique galante, où un élément du corps ou un objet féminin devient la matière d'une production versifiée. C'est ainsi qu'entre 1534 et 1536, convergent à Ferrare, chez René, des dizaines de blasons de ce type, écrit par les poètes français en langue vernaculaire. Avec la duchesse Renée, désignée comme juge, ainsi qu'avec sa cour, une sorte de concours poétique de blason s'est alors mis en place. Il fallait bien se consoler de l'exil. Voici donc quelques extraits allant de la tête aux pieds de cette joute des blasonneurs. Blason de la bouche, par Victor Brodeau. bouche belle, bouche bénigne, courtoise, claire, coralline, douce, de mine désirable, bouche à tous humains admirable. Bouche, quand premier je te vis, je fus, sans mentir, tout ravi, sur le doux plaisir et grand aise que reçoit l'autre qui te baise. Mais après que tu y parlais, je pensais entendre par l'air l'édit de Juno la seconde et de Minerve la faconde. Par quoi je dis, ô bouche amie, bouche à qui tu veux ennemi, bouche qui fait vivre ou mourir tous ceux qu'elle peut secourir, bouche aimable, bouche entière, non variable, non légère, bouche se mourant d'un baiser pour toute douleur apaisée, bouche riant, plaisante bouche, qui bâille devant qu'on la touche. Bouche, voudrais-tu emboucher celui qui voudroit te boucher? Bouche où gient le mien repos, bouche pleine de bons propos, bouche seule d'où doit sortir ce qui peut mon feu amortir. Bouche rondelette et fétisse, bouche à bien parler tant propice que plus on t'ouait, plus on te veut. Et moins on t'a, plus on s'en deut. Ne souffre point que ta beauté dédaigne ma grande loyauté, mais ô bouche heureuse et honnête, si reçois, entends ma requête. Bouche vermeille, bouche ronde, bouche au dire et faire faconde, autant ou plus qu'autres qui vivent. Bouche digne, de grâce vive, bouche garnie par dedans, de deux râteaux de blanches dents. Bouche sans nulle tache noire, blanche, dis-je, plus que ivoire. Bouche à qui fut autant fidèle, comme elle est aimable et belle. Bouche où n'y a chose à redire, sinon d'accorder et me dire. Ami, je suis bouche pour toi, puis que tu as le cœur pour moi. Et veuille pour ton mal apaisé, que de moi sentes un baiser. Dis, bouche, bouche, en me baisant, ce que tu dis en te taisant. L'or aurait le bien que mérite, le mal que pour moi me hérite, en esprit, en âme et en corps, sans tel espoir. Si saurait l'or, ô bouche à bien parler propice, que mieux encore fait l'autre office, donnant enfin le demeurant qu'on ne prend jamais qu'en mourant. Blason de la main, Claude Chapuis. Ô douce main, main belle, main polie, main qui les cœurs fait lier et délie, main qui le mien a appreint sans y toucher, main qui embrasse et semant d'approcher, main à qui moi dois ouvrir, ô main forte, qui fort à moi, à tous ferme la porte. Main qui souvent, en étreignant le doigt, sans dire mot, m'a dit « je sais bien quoi ». Main qui la trousse et flèche, sans doubler, à Cupidon seul pourrait ôter, dis-je la main que Cupidon ferait mouvoir d'amour quand il la toucherait. Main qui peut seul, et le soir et matin, laisser la mienne approcher du tétin. Main qui permet, s'il est besoin qu'on puisse, en se jouant savoir quelle est la cuisse. Main qui permet parfois outrepasser, mais ce serait assez pour trépasser. Main qui peut bien faire encore autre chose, qui plaît autant, mais que dire je n'ose. Main à qui seul appartient qu'elle sache ce qu'on ne voit, ce qu'on cherche et qu'on cache. Main qui peut mieux par écrit assurer que l'œil par voir et bouche pour jurer. Ô digne main qui jusqu'au ciel approche, main qui fait honte à la neige et reproche, main qui étreint le nœud de fermeté, main qui chatouille en toute honnêteté, main que Vénus veut pour sienne advouer, main qui du luth doucement sait jouer, main quand Orphée même l'écouterait comme vaincu la harpe laisserait, main que Pallas choisirait pour écrire, main qui, autant que la bouche peut dire, main qui trop pudeur envoie en absence que l'œil n'en peut octroyer en présence, main frétillante, ôtez vos gants, ôtez, et vos plaisirs par vos doigts me comptez. J'entends ceux-là dont faut que soit témoin, et quand de toi, hélas, je serai loin. Main, je te prie, fais réponse à la mienne. Main, récris-moi, que soudain je revienne. Au final, à partir de ce concours informel de poésie, c'est tout un recueil qui verra le jour, composé par les nombreux auteurs participants. Parmi les chevaliers de la plume en lice pour la consécration, on peut citer Jean de Vauzel, Melun de Saint-Gelais, Albert le Grand, le prolixe et truculent Eustorgue de Beaulieu, à qui l'on doit les blasons le nez, la joue, la langue, les dents, la voix, le cul. Il y a encore Maclou de la Haye, Antoine Hérouette, Victor Brodeau, qui serait peut-être Louise Labbé déguisée sous ce nom. Ah, il faudrait bien une femme. Claude Chapuis, Gilles d'Origny, Jacques Pelletier, Bonaventure Desperriers, François Sagon, Hugues Salel, Jacques Lelieur, Lancelot Carle, François Béranger de la Tour d'Albenas. Ils se reconnaissent et se citent entre eux de poème en poème, cherchant les sujets les plus originaux et les moins traités par leur père. Et voilà donc ce Gilles d'Origny qui, après avoir trouvé tous les sujets pris, s'est décidé à faire le blason de l'ongle et d'expliquer son choix. Il n'y a si gentil esprit qui n'ait inventé ou écrit quelque chose à l'honneur du corps. J'entends des membres de dehors. Tant que plusieurs s'y sont mis, pense que rien n'y soit omis. Chacun a fait blason honnête, depuis le pied jusqu'à la tête, l'un la gorge, la main, la bouche, l'autre le lieu où nul ne touche, l'oreille, le front, les cheveux. Il n'est pas poil des deux yeux qui n'est son blason de quelqu'un. Toutefois, si, s'en faut-il un, c'est le petit ongle poli, l'ongle luisant, l'ongle joli, l'ongle qui a bien mérité que son honneur soit récité. Je vous passe la fin du poème pour présenter celui de Jean de Vauzel, qui sur un ton plus macabre a choisi de blasonner la mort. Oui oui, on blasonne aussi la mort. La mort, territoire encore inexploré de ses compères plumographes. Voici l'extrait de Jean de Vauzel. Pour mettre à reste à ces anatomistes, qui, par leur vers et blasonnement mistes, nous ont voulu un corps canonisé, étant l'un membre après l'autre prise, j'ai entrepris par un bref épilogue, montrer qu'il n'est phare, ornement né drogue, qui fasse un corps tant beau, gai ou parfait, comme de mort le grand bien peut et fait. Grand bien je dis de mort le bénéfice, car par ma mort fin de malheur et vice. Pour vous mettre en appétit de lecture et vous donner une idée des sujets traités, sachez qu'on trouve encore des blasons tels que le front, la larme, le soupir, la gorge, pour Maurice Sève, l'ouïe, le regard, la voix, le ri ou le rire, l'embrassement, pour Maclou de la Haye, l'épingle, l'anneau, pour Hugues Salel, et puis dans le désordre, le cœur, le ventre, le nombril, le corps, la cuisse, le genou, le miroir, l'oreille, le pied, et autres réjouissances dont on parlera bientôt. Mais, à bien y penser, tout cet amoncellement de morceaux choisis ne fait-il pas un peu étal de boucherie où les galants sur fond de poésie viennent se disputer des quartiers de femmes rêvées, objectifiées? Autant de poèmes, autant de trophées, autant de fétiches pour un érotisme qui se découvre. On écoute François Sagon. Pied de façon à la main comparable, pied ferme et sûr, en assiette honorable, pied qu'on regarde avant cuisse ou tétin, pied faisant guet de soir et de matin, pied nécessaire avec l'œil pour conduire, pied convenable pour à chasse séduire, pied où se voit la grâce et le maintien, pied où nature a mis notre soutien, pied qui nous sert pour la muraille abattre, pied ordonné pour tout le corps ébattre, pied qui la main montre d'affection, pied, 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 pied. François Sagon. Il était prêtre à Rouen, féru de concours poétiques, et très certainement au prochain épisode, ses oreilles vont siffler. Avec tout ceci, on regrettera bien sûr la mise au ban continuelle des femmes à travers l'histoire qui ne nous a pas laissé davantage de production, ni de réponse du même acabit à ces blasonneurs en verbe. Ce sera pour un prochain bruit neuf. Mais revenons à notre concours. après tant d'écrits, c'est finalement Maurice Sève qui l'emporte avec le blason du sourcil. Sourcil tractif, en voûte fléchissant, trop plus qu'ébène ou joyau noircissant. Eau forgetée pour ombrager les yeux quand ils font signe ou de mort ou de mieux. Sourcil qui rend peureux les plus hardis et courageux les plus aquardis. Sourcil qui fait l'air clair-obscur soudain quand il froncit par ire ou par dédain. Et puis le rend serein, clair et joyeux quand il est doux, plaisant et gracieux. Sourcil qui chasse et provoque les nus selon que sont ses archers tenus. Sourcil assis au lieu haut pour enseigne, par qui le cœur son vouloir nous enseigne, nous découvrant sa profonde pensée, ou soit de paix, ou de guerre offensée. Sourcil, non pas sourcil, mais un sous-ciel, qui est le dixième et superficiel, où l'on peut voir deux étoiles ardentes, lesquelles sont de son arc dépendantes, étincelant, plus souvent et plus clair qu'en été chaud, un bien soudain éclair. Sourcil qui fait mon espoir prospérer et tout à coup me fait désespérer. Sourcil sur qui amour prit le portrait et le modèle de son arc qui impose hommes et dieux à son obéissance par triste mort et douce jouissance. Ô sourcil brun, sous tes noires ténèbres, j'ensevelis en désir trop funèbre ma liberté et ma dolente vie qui doucement par toi me fut ravie. Alors, Maurice Sève, c'est un sublime poète lyonnais, et il publie plus tard, en 1544, son recueil le plus connu qui s'appelle « Délit, objet de plus haute vertu ». Vraiment, c'est un recueil magnifique, et il est certainement dédié à la poétesse Pernette du Guillet, de qui il était amoureux. Amoureux et conduit, semble-t-il. Pour en revenir à ce concours poétique, les œuvres lauréates seront plus tard regroupées dans un recueil intitulé « Blason anatomique du corps féminin ». Et celui-là, il sera publié en 1543 et réédité après la mort de Marot, en 1550. Aujourd'hui, ce blason anatomique du corps féminin est une rareté recherchée par les bouquinistes. Alors, si vous en trouvez un... Dans le prochain épisode, préparez vos chastes oreilles, car nous partirons à la découverte, toujours dans la même veine, non plus des blasons mais des contre-blasons, qui en sont la face obscure et potache de cette école marotique. Accrochez-vous, ça sentira le soufre. C'était Les Bruits Neufs, la joute des blasonneurs, Gloire et misère du corps chez les poètes baroques, premier épisode. Avec, à la viole de gambe, Roland Kern. Les lectures, la conception et le montage sont de Gabriel Tamalet. À bientôt!